Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Très bonne matinée à tous, merci d'être avec nous. RTL vous régale. Ce matin, on vous emmène en Haute-Saône. Alors là, Haute-Saône, les amis, considéré comme le paradis du tourisme vert, on vous en parlera. On vous a préparé un itinéraire entre fermes ancestrales, étangs aux allures de véritables lacs canadiens et champs à perte de vue. Et puis, on vous racontera aussi une brêle histoire.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
On passera évidemment par là et on vous dira enfin pourquoi il voulait voir la sœur et qu'il a vu la mère. Comme toujours. Le régional de l'étape ce matin s'appellera Thibaut Pinot. Et vous verrez que même si son Tour de France n'était pas à la hauteur de ses espoirs, il garde fière allure d'où il est originaire. Alors entre jambon, gandouillot et griotte de Fougerolles, voici nos guides jusqu'à 11h30 en direct sur RTL. Il fallait une Italienne pour évoquer ce qu'on appelle le piémont du massif vosgien. Et ça tombe bien, elle a la délicatesse d'une noisette piémontaise.
Ah,
ça, c'est de l'accueil. Hein.
Ça, c'est vraiment...
J'ai bossé trois jours. Voici Louana Belmondo.
Bonjour tout le monde.
À ses côtés, l'homme parcourt la France depuis toujours. Il a connu personnellement le pâtissier de Louis XVI. Ce qui l'autorisera à nous révéler le secret d'un biscuit d'exception, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Mais bonjour. Bonjour à tous.
Et dans la playlist d'RTL vous régale ce matin... Nous vous ramènerons, non pas en DeLorean, mais en 1985, au cœur d'une année phare pour les Norvégiens du groupe AA avec Take On Me. Il y aura aussi...
Le monde a changé.
Julien Doré.
Il s'est déplacé. Quelques vertèbres.
Et l'excellente Doja Cat. RTL vous régale. C'est aussi la possibilité de faire de votre frigo le frigidaire le plus célèbre de France. Alors, le défi est simple. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et mes camarades ont 1 minute 30 chacun pour vous imaginer une recette. Vous allez gagner une montre RTL et un séjour de 2 nuits pour 2 personnes au château de Pizet, au cœur du Beaujolais. C'est entre Brouilly et Morgon, château hôtel 4 étoiles. C'est sans doute l'un des plus grands domaines viticoles de la région. Pour jouer avec nous, c'est facile. 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot « régale » suivi de votre message au 64 900. Je vous souhaite bonne chance et on se reparle de ça tout à l'heure sur le coup d'11h.
Yeah.
je vous épargnerai les noms forcément norvégiens des membres du groupe AA en 85 avec Take On Me. Dans un instant, le premier tour de force de cette émission RTL vous régale. Serez-vous capable, Louana et Jean-Sébastien, de nous apprendre trois choses qu'on ne savait pas sur la Haute-Saône?
Pourquoi que nous?
Que quoi?
Pourquoi que nous?
Que nous, l'ensemble de la France.
Non mais vous aussi,
vous aussi, j'en fais partie.
J'en fais partie. Surprenez-moi. À tout de suite.
Restez bien avec nous. RTL vous régale. Revient tout de suite.
10h15, 11h30,
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon.
Une promenade en Haute-Saône aujourd'hui avec Jean-Sébastien et Louana. Avec trois choses que vous ne saviez pas sur la Haute-Saône. Les amis,
oui,
cette chanson évidemment, tout le monde connaît Vesoul de nom grâce à la chanson, même si on n'est pas forcément capable de situer sur une carte de France. On est d'accord là-dessus quand même.
C'est en Franche-Comté globalement, vous voyez, c'est Belfort est pas loin, Besançon non plus.
Mais cette chanson,
c'est au sud des Vosges.
La genèse de l'histoire de cette chanson finalement, on connaît le fin mot?
Alors, il y a quelques versions, hein. Différentes études. Tout aurait commencé au début des années 60. Brel fait une étape à Vesoul pour déjeuner dans un restaurant qui s'appelle La Bonne Auberge. Il discute avec le patron, il signe le livre d'or et il met avec ma plus gentille chanson amicalement Jacques Brel, ce qui ne veut globalement rien dire. Il promet du coup...
C'est le principe du livre d'or.
C'est le principe du livre d'or, hein. Il leur promet d'écrire une chanson sur Vesoul, mais d'un autre côté, si à chaque fois qu'il s'arrête dans un patelin pour déjeuner, il promet une chanson, ça fait une certaine discographie. Bon, il n'empêche que, apparemment, Jacques Brel repasse dans la région en 67, à l'occasion d'un concert au Casino de Luxeuil, et c'est là que l'histoire et la légende se confondent. Parce que du coup, il passe une nuit à l'Hôtel du Nord, à Vesoul, panne de voiture... Amourette, avion en panne, enfin bon, il n'empêche qu'il s'arrête à Vesoul et là, lui revient dans la tête cette promesse. Et puis la chanson est née comme ça.
Et il y a quand même, pour lui rendre hommage, un collège, une place, un buste en bronze aussi, bah, qu'on peut voir à Vesoul. Et même un festival, je crois.
Absolument.
Voilà.
La question, c'est de savoir s'il a fait la même chose à Vierzon.
Oui, et la semaine prochaine, nous vous raconterons le passage de Bourville à Maubeuge. Il y a bien sûr des dizaines d'autres versions de cette histoire.
Comme toujours.
En Haute-Saône, on trouve des vignobles. Ça, c'est sûr.
Du côté de Champlitte, ça, c'est extrêmement surprenant. Il faut savoir que la Franche-Comté est la seule région au monde qui produit 5 couleurs de vin. Ça vous surprend?
Il y a le jaune.
Alors, il y a blanc, rosé, rouge, il y a le vin jaune, et puis il y a aussi le vin de paille.
Vin de
qui
paille.
Est encore plus ambré.
Qui est un peu
qui est presque orange, rouge.
Ouais,
absolument.
Le Tour de France, on en parle souvent dans la région, parce qu'il s'est joué lors du contre-la-montre de la planche des belles-filles.
C'était pile il y a une semaine.
Ouais.
Et la planche des belles-filles, eh bien, c'est en Haute-Saône. On ne le sait pas forcément. Et la planche des belles-filles, c'est une petite station de ski. Il y a juste 6 pistes de ski alpin, 23 km de pistes de ski de fond. Arrivée du Tour de France devenue mythique. Mais alors la question, c'est qui sont les belles-filles. Alors c'est une sombre tragédie au début du XVIIe, pendant la guerre de 30 ans. Conflit qui opposait protestants contre catholiques et des mercenaires suédois auraient précipité des jeunes femmes du haut de la planche, dans un étang glacé, parce que c'était une nuit d'hiver. Ça a pris le nom de la planche des belles filles. L'autre info, surtout, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Michel, Thibaut Pinot, lui, il est originaire de Lure, qui est juste au pied, pratiquement, de cette planche des belles filles. Il y est né en 1990. Et si je dois insister sur le monde du sport, on sait encore moins, je pense, que la Haute-Saône est la terre natale d'un certain Jules Rimet.
Ah, c'est l'inventeur de la Coupe du Monde.
Exactement. Qui a passé son enfance dans le village de Telet, à 30 km de Vesoul. Et il est originaire, en 1930, de la première Coupe du Monde, qui porte toujours son nom.
Louana Belmondo.
Oui, présente.
Le foot, c'est pas votre truc?
Pas tellement, non.
En revanche, la truffe.
Formule 1.
Je préfère. Et en fait, pourquoi vous me dites ça? Parce que à la fin du 19e siècle, en Haute-Saône, il y avait une très belle récolte des truffes. Plus de 4 tonnes par an, avant de tomber dans l'oubli. Puis, La légende raconte qu'un chien aux fleurs incroyables ou dressé au cavage a trouvé à la fin des années 90.
Je vous interromps parce que le cavage dont on parle, ça vient de l'italien.
Oui, scavare.
Exact, qui veut dire creuser.
Creuser, oui. Donc vous savez, ils creusent les chiens pour chercher. Donc à la fin des années 90, des truffes sauvages sont trouvées dans la forêt des Norrois-les-Bourgs. Alors de là, l'idée de relancer la récolte avec l'aide de l'association et de la commune, on obtient des terrains avec des sols calcaires. C'est très important. On commence à planter des arbres à truffes comme des noisetiers, des tilleuls, des chênes, des pins noirs. Et au bout des 8 ans, leurs racines permettent aux truffes de se développer. Alors la truffe de Bourgogne, vous savez, elle a la peau noire, elle a une chair qu'elle va du brun au chocolat, elle est assez veinée de blanc. Son goût se rapproche à celui de la noisette avec des petites notes de sous-bois.
Quelle poésie.
Mais vous savez, on se demande souvent comment on peut conserver, bien conserver la truffe.
Attention, alerte Belmondo.
Le système B.
Système B, le système Belmondo pour conserver la truffe.
Absolument. Alors, il faut savoir déjà que la truffe est un concentré d'arômes malheureusement très volatile. Donc, il vaut mieux la consommer fraîche. Pour pouvoir bien la garder, vous allez la disposer dans un bocal hermétique, soit sur du papier absorbant, soit sur une couche de riz cru, bien sûr, hein, c'est pas un risotto déjà fait.
Non, mais c'est presque le cas, parce que si vous utilisez le riz après...
Absolument, absolument. Tout ça, vous le mettez au réfrigérateur, dans une température proche des 4 degrés, pas plus. Un petit astuce, comme vous venez de dire, si vous savez déjà le plat que vous allez réaliser avec la truffe, glissez les aliments dans la boîte hermétique avec la truffe. Ça peut être des œufs, des pâtes, du riz, comme on vient de dire, des légumes secs, par exemple, si on fait une bonne soupe, il fait froid en ces moments, ou alors une salade d'haricots, de la farine de maïs, une bonne polenta au goût de la truffe, c'est super. Et pendant quelques jours, la truffe leur transmettra ses arômes.
Et ça fonctionne très très bien pour l'avoir essayé à de nombreuses reprises. Si vous mettez quelques œufs dans un bocal hermétique avec une truffe, si vous avez la chance d'en avoir, vu le prix prohibitif de la truffe, d'autant qu'il n'a pas beaucoup plus cette année et que ça va être compliqué, à mon avis, ça ne va pas être une grosse récolte. Elle va donc être très chère. On vous en reparlera dans cette émission. Dans un instant, la balade gourmande en Haute-Saône vous emmène sur des chemins étonnants à la découverte d'un véritable paradis du tourisme vert. On vous en parle.
RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
En direct jusqu'à 11h30, RTL vous régale. Bienvenue en Haute-Saône avec mes camarades. Je disais en lançant l'émission tout à l'heure que ça avait des allures, cette Haute-Saône de Piémont, du massif vosgien, que les étangs donnaient des faux airs de Canada. Et c'est vrai.
C'est le paradis du tourisme vert, la Haute-Saône. C'est un coin de nature magique, méconnu, pratiquement oublié du reste de la France, surtout en ce moment où ça commence à prendre des teintes mordorées au niveau des arbres. Et puis alors, quand on va se balader sur le plateau des Mille Étangs, on est juste au sud du département des Vosges. Ça va devenir une sorte de Canada à la française dans les semaines qui viennent, avec des arbres qui vont prendre des couleurs de feu. Et puis bien sûr, je ne les ai pas comptés un par un ces étangs, mais il y en a un certain nombre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été creusés par des moines au Moyen-Âge, histoire d'avoir du poisson pour les jours maigres, parce que il fallait bien manger les jours où on n'avait pas le droit de manger de viande. Et donc, il n'y a pas des rivières partout. Et plutôt que d'essayer d'aller à pêcher à la truite, ce qui est jamais forcément une réussite, c'était plus simple de creuser des étangs, de mettre des carpes dedans, et on avait à manger comme ça toute l'année. Il fallait savoir qu'à l'époque, il y avait plus de 100 jours maigres par an. Mmh. Ça fait quand même un certain nombre de poissons à pêcher. Du coup, ça donne aujourd'hui des paysages totalement bucoliques, avec des résineux, des feuillus, quelques prairies piquetées de villages qui prouvent que tout cela est resté très humain. Je peux vous dire qu'une randonnée sur le plateau des Moulières, au milieu des fermes, des champs, bien sûr de ces étangs, quand vous montez au col des Croix, à 678 mètres d'altitude, c'est la ligne de partage des eaux entre la mer du Nord et la Méditerranée. Et le point de vue est encore plus beau. C'est vraiment d'une beauté à couper le souffle pour peu que le soleil joue avec les nuages. C'est beau à pleurer là-bas. C'est vraiment une nature qui est totalement omniprésente.
Et vous disiez tout à l'heure que ce sont des routes de vélo aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a des grands champions. Je peux vous en parler. Je suis allé me balader. Enfin, se balader, le mot est faible. Hein.
Voilà. On était en chier.
On est allé un peu en chier dans les ballons des Vosges parce qu'ils sont nombreux. C'est un truc de dingue.
C'est absolument magique. Et puis, vous avez également des richesses et des beautés somptueuses en matière de patrimoine. Il suffit de penser à la chapelle de Ronchamp. Imaginez, 1955, sur les restes d'une église détruite par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, Le Corbusier construit une chapelle. Il a souhaité la forme d'un sanctuaire qui réponde au site sur lequel il se trouve. Ça donne une architecture singulière qui se font dans un environnement naturel totalement exceptionnel, un panorama qui se déploie sur les quatre horizons, avec les ballons des Vosges au nord, la trouée de Belfort à l'est, les premiers sommets jurassiens au sud, et à l'ouest, on découvre la vallée de la Saône. Et puis là, une arche blanche, une sorte de sculpture de nature acoustique, où chaque mur possède son rythme. Il n'y a pas vraiment de symétrie, mais c'est tout en courbure, en modelé. À l'intérieur, c'est l'humilité et la simplicité qui interpellent. La lumière pénètre par des meurtrières de verre de couleur primaire. C'est, si on y ajoute une architecture en plus de Jean Prouvé, celui qui a fait le palais Omnisport de Bercy, et puis un monastère signé Renzo Piano, celui-là même qui a fait le centre Pompidou à Paris, vous avez une espèce de véritable manifeste de l'architecture du XXe siècle posée comme ça au milieu de la Haute-Saône.
Je me suis arrêté dans cette église, je me suis agenouillé, et puis j'ai prié pour que ça s'arrête de monter à un moment donné.
Et puis vous ajoutez à cela, bien sûr, Vesoul, Luxeuil-les-Bains, avec son patrimoine Renaissance exceptionnel. Le château qui se trouve à Gy est totalement incroyable. Château du XIIIe, devenu résidence d'archevêque au XVe, métamorphosé au XVIIIe. Tout ça a traversé les affres de la Révolution et des guerres. Il nous est parvenu. Vous avez des surprises à peu près partout.
Et des merveilles absolues à découvrir.
Et des merveilles, voilà, à découvrir à chaque kilomètre.
Vous savez que dans RTL vous régale, le samedi sur RTL, on aime bien remplir le coffre de la voiture dans nos balades.
Oh,
on va tout vous dire sur les produits à rapporter impérativement de cette promenade d'ici quelques instants. En attendant, c'est vrai que le monde a changé et qu'on a le sentiment qu'il s'est quand même déplacé quelques vertèbres ces derniers mois. Voici Julien Doré sur RTL.
Je veux plus écrire les peines que le féminin m'a fait. Dites à Jackie et Michel de venir me chercher. Moi je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si l'époque a des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où est-elle la stéo, cachée dans son dos, attendant la fièvre. L'enfer, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie.
Le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres. Oh, est-elle la stéréo cachée dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres. Oh, est-elle la stéréo cachée dans son dos, attendant la fièvre.
C'était Julien Doré sur RTL. RTL vous régale. On est de retour dans un instant. A tout de suite, il est 11h20.
RTL vous régale.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Sens-moi ça, si ça sent bon.
Ouais, chaque samedi, jusqu'à 11h30, on vous emmène dans une région, un département, on y explore les spécialités, les produits. Et évidemment, on vous dit ce qu'il vous faut impérativement rapporté. Alors avant de prendre la route, de rentrer à la maison, on revient pas le coffre vide et justement, qu'est-ce qu'on va y mettre ?
Bah écoutez, je vais pas vous décevoir parce que je sais que vous adorez le fromage
je
quand
vous
je
vous
ramène. Et donc là, il y a un symbole de la gastronomie franc-comtoise. C'est un fromage à tartiner, la cancaillotte. Elle est faite à base de metton. Alors le metton est un fromage de lait de vache que l'on fait chauffer à feu doux, soit avec du lait, soit avec de l'eau, et on le mélange avec du beurre et du sel. Elle se consomme bien sûr aussi bien froide. Vous pouvez aussi rajouter des herbes, de l'ail ou des épices, ou chaudes, par exemple comme nappage sur des pommes de terre en robe, ou alors en robe de champ, ou dans une quiche, c'est délicieux, ou alors pour accommoder un poisson, un peu différemment, mais c'est très bon aussi.
C'est très bien la cancoyotte. Avec une
bonne... Ça sent rien.
Non, bah c'est, ça a le mérite de...
Dans la voiture.
Dans le corps, c'est pratique.
C'est pratique.
Voilà.
Ça sent moins que certains fromages qu'on a déjà ramenés.
Ah ben, ça sent pas.
Si on, si on pouvait ne pas revenir là-dessus. Si on ajoutait une petite tranche de jambon de qualité.
Oui, mais pas de n'importe lequel. Du jambon de Luxeuil. Parce que ça fait partie du patrimoine de cette ville qui n'en manque pas, avec tous les bâtiments renaissance qu'il y a là-bas. C'est un jambon qui a plus de 2000 ans.
Ça, c'est de l'affinage.
Alors, il y en a d'autres qui ont été faits depuis quand même. C'est un jambon qui est salé à la saumure, qui est fumé, qui est ensuite séché. C'est une préparation qui, mine de rien, prend quand même 9 mois. C'est donc le temps d'un accouchement. Hein. Et au préalable, cette cuisse de porc va macérer dans un bain de vin rouge et d'alcool salé. On l'a frotté avec du sel sec. Ensuite, on le laisse reposer tout un mois au frais. Et puis ensuite, sur des clés en osier, avant d'aller le fumer à la sciure de résineux dans les fameux tuyers qu'on trouve également dans le Doubs et dans le Jura pour faire les fameuses saucisses de Morteau et de Montbéliard. C'est une vaste cheminée fumoir. Donc ce jambon, il est longuement préparé, mais ça donne quelque chose qui est entre le jambon sec et le jambon. C'est très particulier le jambon.
Je me demande ce que ça donnerait si on vous plongeait, Jean-Seb, dans un bain de vin rouge ou d'alcool salé, en vous frottant régulièrement à la main avec du sel sec.
Bah, vous avez le résultat.
Ouais, voilà. C'est QFD.
Le truc, c'est que j'ai pas été fumé.
On rapporte du gandouillot aussi, Jean-Sébastien.
Je vous confirme.
C'est quoi le gandouillot?
Alors, le gandoyau, c'est une espèce de... C'est une andouille de fougerolles, là où on fait également des griottes et du kirsch. Ça se rapproche de l'andouille du Val d'Ajol, si vous voulez. Vous avez d'un côté, dans les Vosges, l'andouille du Val d'Ajol, et puis dans le, en Haute-Saône, ça s'appelle le gandoyau. C'est une des spécialités de ce coin de France.
Une des spécialités, mais il y a quand même des incontournables, évidemment, dans la région. On vous en parlera dans un instant. Suspense ou pas ?
Bah, ça, on va parler des griottes.
Bah, forcément, les griottes.
Des guignes,
évidemment. Et puis le kirsch aussi.
Voilà. Ah bah oui.
On arrive, ne bougez pas.
La famille des cerises.
On se régale ensemble.
Et c'est bon.
À tout de suite.
Tout de suite, retour de RTL vous régale.
10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et on vous emmène en Haute-Saône ce matin sur RTL jusqu'à 11h30. Bienvenue au royaume des cerises à kirsch, à Fougerolles. On est au pied des Vosges, au nord-est de la Franche-Comté. Bonjour Bernard Beau.
Bonjour Jean-Michel, bonjour Luana,
Jean-Pierre. Bonjour Bernard.
Bienvenue dans RTL, vous régale, vous êtes le PDG des grandes distilleries Peureux qui distillent la cerise et des eaux de vie. Mais alors, les griottines, ces petites cerises un peu aigres, macérées dans du kirsch, j'ai appris que ce sont les petites cerises qu'on met sur les forêts noires, notamment. Comme ça, on visualise de quoi on parle. On va en discuter deux secondes avec vous, parce que c'est une vraie passion. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement, Fougerolles, c'est le royaume du kirsch ?
Parce qu'on a un terroir qui est vraiment très, très favorable au développement des cerisiers très particuliers, qui sont, qui grandissent dans des pâtures. C'est un spectacle assez particulier. Vous parliez tout à l'heure des paysages de la Haute-Saône. Là, ces cerisiers donnent des cerises à kirsch. Et depuis des siècles, on peut dire, les paysans, puis les distillateurs, élaborent ce nectar qu'est le kirsch de Fougerolles.
Il faut préciser quand même que l'eau qu'on trouve chez vous est d'une qualité assez exceptionnelle et qu'elle est de nature aussi à donner ce produit.
Ah oui, l'eau est un élément essentiel dans l'élaboration du kirsch. Elle est extrêmement pure, elle a très peu de calcaire, elle n'a pas du tout de calcaire même. Donc quand on va mélanger le kirsch obtenu après distillation à l'eau pour avoir un kirsch consommable, on a une pureté du kirsch qui vient aussi de l'eau.
Vous avez parlé de la terre, on vient d'évoquer l'eau. Il manque une troisième chose pour faire de l'alcool ?
Oui, il faut un terroir, comme pour le vin. Et là, on est sur une géologie très particulière. Ce sont des grès vosgiens particuliers sur lesquels le cerisier se plaît beaucoup parce que ce grès-là va drainer l'eau. L'eau ne va pas stagner au niveau des racines des cerisiers et il va permettre à ces cerisiers, malgré notre climat quand même assez rude, de se développer et donner ces cerises très sucrées.
Mmh. En deux mots, hein, sans rentrer dans les détails techniques, comment on fait du kirsch ?
Alors, on va sélectionner différentes variétés de cerises pour leur sucre et leur qualité de goût. Ensuite, elles vont être mises dans des tonneaux ou dans des cuves. Là, les levures qui sont sur la cerise vont transformer le sucre de la cerise en alcool. Et c'est ce processus de la fermentation. Et une fois que la fermentation est terminée, il y a une phase de maturation. Et ensuite, on va distiller. Les distillateurs, les bouilleurs, vont extraire l'alcool qui est contenu dans le fruit fermenté dans des alambis, et on va récupérer une eau de vie, le cœur de chauffe, on appelle, et cette eau de vie va ensuite être vieillie et puis ensuite être embouteillée pour pouvoir être offerte aux consommateurs.
Et ben voilà, vous voyez que l'explication n'est pas forcément alambiquée en plus. Hein. Faut pas confondre les cerises à kirsch avec les griottines, justement.
Ah non, c'est deux histoires très différentes. Les cerises à kirsch, qui sont sur l'aire de l'appellation d'origine contrôlée, puisque ça fait 10 ans que nous sommes une AOC, pousse exclusivement aux alentours de Fougerolles. Et l'histoire de l'entreprise a fait que nous avons essayé dans les années 1970 de développer une autre cerise et avec mon père qui était le créateur des griottines. On est parti un petit peu à la recherche d'une cerise idéale, d'une griotte, comme vous l'avez dit, une griotte aigre un petit peu. Et nous avons trouvé cette griotte, mais qui n'est pas sur Fougerolles.
Elle est même très loin.
Elle est très loin, elle est en Serbie, elle est à l'autre bout de l'Europe. Ouais. Et nous avons pu découvrir ce trésor Et on récolte cette griotte dans nos vergers en Serbie, on la ramène à Fougerolles, c'est un peu le griottine express hein, à travers l'Europe. Et là, c'est une aventure fantastique qui a été une histoire aussi de famille extraordinaire. Et cette griotte va rentrer dans la distillerie, elle va être ensuite calibrée, dénoyautée, et puis elle va recevoir, c'est là où c'est très important pour nous, le Graal final, la gelée royale, si on veut dire, avec un peu de kirsch de Fougerolles pour devenir griottine.
Voilà, et après, évidemment, il y a le secret familial derrière, que vous allez enfin nous révéler en direct ce matin, évidemment.
Voilà, nous sommes bien d'accord. Vous savez, les Haussonnois, sont aussi assez pudiques, hein. On est assez réservés.
C'est tout à votre honneur.
Bernard Beau, il y a des gens qui partaient à l'autre bout du monde, au Japon notamment, pour aller voir les cerisiers en fleurs, qui est une période absolument magique. Il suffit d'aller du côté de Fougerolles une fois pour voir qu'effectivement c'est magique et qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le voir.
Et puis, c'est vrai, c'est bien de le préciser. Geste citoyen, si je voulais le souligner, parce que je trouve ça remarquable, pendant la crise de la Covid, la distillerie a dédié ses alambics à la production de gel hydrologique. Vous n'avez pas hésité à dilapider votre stock d'alcool qui était destiné aux griottines pour faire ce gel, justement ?
Oui, c'est vrai que dès le départ, on est intervenu, mais vous savez, c'est une tradition. Et puis, nous élaborons un des produits magiques qui s'appelle des eaux de vie. Et depuis le tout début de l'histoire des eaux de vie, on a toujours été associé à des traitements médicinaux, à des traitements autour de la santé, et c'était normal pour nous, dès le départ, avec toute l'équipe de l'entreprise qui a été formidable, de pouvoir donner notre petite et humble contribution à ce qui se passait.
Je fais très vite parce que ça m'intéresse vraiment, et j'ai un spécialiste en la matière, ça fait des années que je me pose cette question. Comment on fait entrer une poire, par exemple, dans une bouteille d'eau de vie? Est-ce que vous pouvez me répondre?
On lui demande poliment.
Oui, c'est ça.
Oui, gentiment. Allez, ma chérie, rentre tout de suite.
Voilà, c'est fascinant. Voilà. Il faut un peu de tact et de savoir-faire. On suspend la bouteille dans le poirier quand poire est toute petite.
Ah, d'accord.
Donc, c'est un travail d'orfèvre. Hein. Il faut sélectionner la poire, la faire glisser dans le goulot de la bouteille, accrocher la bouteille à la branche et la poire va se développer dans la bouteille.
C'est hallucinant. J'ai toujours cru, vous savez, je vais vous faire une confidence, je vais être très transparent. J'ai toujours cru que les gars qui soufflaient le verre le faisaient avec la poire en même temps, vous savez, et qui soufflaient autour de la poire.
Vous pouvez l'excuser, Bernard.
Il ne faut surtout pas cesser de croire aux belles histoires.
Voilà.
Nous avons des arbres à verre.
Mais comment il faut rentrer des bateaux parce que y a, sur les arbres, ça va se compliquer ce truc-là.
Dans deux minutes, il va vous faire les bronzer. Ne vous inquiétez pas.
Je crois que nous nous éloignons de la griotine.
Absolument. Merci Bernard Beau.
Je rappelle que vous
êtes le PDG des grandes distilleries Peureux qui distillent la cerise et des eaux de vie, évidemment, à Fougerolles. Merci de votre passage dans RTL vous régale. À bientôt.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30. RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Et il manque quelqu'un dans le casting. C'est Hélène. Hélène qui est du côté de Saint-Pierre-d'Oléron en Charente-Maritime. Comment ça va, Hélène ?
Très bien, et vous ?
Ben, on est ravis de vous avoir avec nous. Vendeuse en boulangerie, merci. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, vous ne collectionnez pas les chouquettes, mais les chouettes.
Exactement, les chouquettes aussi, un petit peu.
J'imagine. Vous cuisinez beaucoup, paraît-il.
Pas mal, ouais.
Et donc, vous avez du gorgonzola dans le frigo.
Oui.
Je faisais le lien tout à l'heure avec la poire Belle-Hélène. S'il y a bien un truc qui se marie bien avec le gorgonzola, c'est la poire. Est-ce que l'un de ces deux-là, Louana et Jean-Sébastien, auront mis de la poire dans les recettes qu'ils vont vous proposer? Ce qui est sûr, c'est que je vais vous donner le choix, Hélène. On démarre avec qui?
Avec Louana.
Alors, on va démarrer avec Louana Belmondo.
Attendez, parce qu'il y a un monsieur qui va chronométrer.
Allez, parfaitement, madame.
Non, mais en plus, si vous le voyez comme il prend du plaisir à chronométrer...
C'est mon bonheur.
Oui, je vous vois.
Alors, vous êtes prête?
Vous me donnez l'ok?
Je rappelle que vous disposez d'une minute trente, pas une de plus.
C'est parti,
top chrono.
Alors, effectivement, Hélène, Jean-Michel avait raison. En Italie, on marie très très bien le gorgonzola avec des poires. Donc, on va préparer un risotto aux poires. On va préparer un bouillon végétal. soit maison, vous cuisinez, donc vous savez le faire, c'est assez simple. Oui. Branche de céleri, oignon, si vous voulez laurier, carotte, vous faites votre petit bouillon maison simple et vous l'avez à côté de vous, bien chaud, pas bouillon, mais chaud. Dans un poêle, dans du beurre, vous allez faire revenir une échalote hachée. Une fois qu'elle devient translucide, vous rajoutez du riz carnaroli, qui c'est le riz qui est fait pour le risotto, parce qu'il tient bien la cuisson. Le faites bien revenir. Une fois qu'il devient translucide, c'est le moment de le déglacer avec un petit peu de vin blanc. Vous déglacez au vin blanc, vous laissez évaporer, et à ce moment-là, vous commencez à nourrir votre riz pour qu'il cuise. Vous le nourrissez bien sûr avec votre bouillon. Pendant ce temps-là, vous prenez une poire, je dirais plutôt une demi-poire. On est en plein de saison. Vous allez la mixer avec une partie de votre gorgonzola. Vous allez obtenir une petite crème. Donc la douceur de la poire va un peu atténuer l'agressivité du gorgonzola. Une fois que le riz est cuit, vous mettez cette crème dans votre risotto. Vous allez mettre, si vous voulez, par-dessous un peu de noix concassée, ça se marie très très bien, et vous avez un risotto super.
On lève les mains, on lève les mains. Une trente, super. Terminé. Ah, c'est top chef, c'est ambiance top chef. Hein.
Mon Dieu, j'ai les mains à haut. Hein.
On est sur M6.
J'ai tout lâché.
C'est pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Hélène? Vous nous le direz dans un instant. Car en face, il y a un protagoniste qui, je le rappelle, est vainqueur la semaine dernière. Ouais. Sorti vainqueur du duel. Il mène donc 1 à 0 en ce début de saison. Jean-Sébastien du Gorgonzola, est-ce que vous êtes prêt?
Toujours prêt.
Attention, top chrono.
Alors, on va faire une tarte. On va faire une tarte salée avec notre. On va pas mettre de poire. Vous allez prendre une pâte brisée que vous allez étaler dans un moule. Et puis, pendant ce temps, vous ferez cuire une courge butternut coupée en rondelles dans de l'eau ou à la vapeur. Vous allez la cuire pendant 20 minutes. Une fois qu'elle a passé 20 minutes dans cette vapeur, vous enlevez la peau et puis vous prenez ces rondelles de courge butternut que vous allez disposer dans votre fond de pâte brisé en intercalant chaque rondelle par des lamelles de gorgonzola. Alors, ça va vous faire une tarte, mais là où vous allez customiser cette alliance d'un légume un peu sucré avec un fromage qui est un peu onctueux, moelleux, enveloppant, vous allez saupoudrer tout ça avec du cacao à 100%. Ça va vous donner, mais vraiment très légèrement, ça va vous donner une petite touche amertumée sur cette tarte. Et puis vous rajoutez des graines de courge. Vous passez ça au four 40 minutes à 180 degrés. Ça va épater tout le monde parce que le cacao va se fondre dans le gorgonzola et la courge butternut. Et on va vous dire, d'où ça vient ce petit goût bizarre? Et ce sera votre truc à vous.
Une 27. Ah, une 27.
J'ai fait combien, moi? Alors,
le gars est dans les clous. C'est parfait. Magnifique. Hélène, ma chère Hélène.
Oui.
On est en présence de deux recettes originales.
Oui.
Elles sont pas mal toutes les deux. C'est compliqué ce matin, je dois dire.
Oui, parce que, oui.
C'est vous qui allez trancher et nous expliquer pourquoi.
Oh là là. Les deux sont à faire et je vais les faire.
Hélène, choisir, c'est renoncer.
On le sait.
Et je vais prendre la recette de Louana.
Oh,
égalisation.
Merci, Hélène. Et rajouter à la fin un peu de parmesan parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire.
Expliquez-nous.
Je m'en doutais bien.
Expliquez-nous pourquoi vous choisissez la recette de Louana.
Parce que j'aime beaucoup l'association poire gorgonzola.
Ouais.
C'est très bon.
Je ne suis pas très très forte en risotto, donc ce sera une expérience en plus.
C'est très simple, n'ayez absolument pas peur.
Un petit système B.
Oui, voilà, ça me fait un peu peur.
Un petit système B, un système Belmondo
sur
le risotto.
Vite, vraiment, une fois que vous voyez, vous mettez la matière grasse, que le riz des blancs deviennent translucides, à ce moment-là, vous déglacez avec un petit peu de vin blanc. Et là, vous commencez à le nourrir. Ni avant, c'est-à-dire ni quand le riz est encore blanc, ni après quand il aura grillé. Translucide, c'est là la réussite.
Je peux ajouter un truc ?
Allez-y.
Je ne suis pas le roi du risotto, mais il y a une règle de base pour un risotto réussi, c'est de ne jamais le noyer.
Non, alors oui, très souvent, on le nourrit. Quand je dis nourrit, c'est qu'il absorbe et vous rajoutez des couches. D'ailleurs, un risotto, vous restez en cuisine quand vous le faites. Mais vous pouvez, si vous avez une cuisine ouverte, vous pouvez préparer un apéro absolument. Et tout le monde autour de vous, voilà. Il vous regarde le faire.
Comme disait Luana Belmondo... Rien ne vous empêche de prendre l'apéritif entre amis.
Après, absolument. J'allais
vous restez. J'ai fait des pâtes. Ça veut dire un point partout, Hélène. Merci pour ce défi frigo réussi.
Merci à vous.
Nous
merci,
allons Hélène. Vous offrir, grâce à cela, une montre RTL. Et ce n'est pas tout. Hélène, écoutez-moi bien. Vous allez partir au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon. Bon, c'est un peu loin de chez vous, mais vous ferez le voyage.
Oui.
On va vous envoyer au magnifique château de Pizet, un château hôtel 4 étoiles. C'est l'un des plus grands domaines viticoles de la région entre Brouilly et Morgon. Vous serez accueillis au cœur de 80 hectares de vignes, de jardins à la française, de tourelles médiévales. Il y a une espèce de grande cour d'honneur, il y a une piscine extérieure, un court de tennis. Le château de Pizet va vous proposer de vous initier à l'œnologie, de vous faire découvrir les crus du domaine, des Morgons, des Beaujolais rouges ou blancs. Et en plus, vous serez invité au restaurant gastronomique du château pour découvrir un plat typique du chef Florian Choquet qui travaille les produits locaux du terroir. Toutes les infos sur château-pizet.com. Un séjour de nuit, chambre double, petit déjeuner et repas.
Pas mal.
Super. Voilà, c'est ça. Génial. Ah vraiment, merci
bravo,
beaucoup.
Et ben voilà, tout ça grâce à un morceau de gorgonzola, faut quand même avouer.
Ah ouais, exactement, j'ai encore plus aimé le gorgonzola.
Allez, je rappelle que si comme Hélène, vous souhaitez lancer un défi frigo à Louana et Jean-Seb, la semaine prochaine c'est très simple, 3210 ou 64 900 par SMS avec le mot régal. On vous embrasse, passez un délicieux week-end.
Bon week-end à vous.
Et bon risotto, week-end. À bientôt Hélène.
À bientôt, au revoir.
Dans un instant, la surprise du chef, on va vous parler de biscuits, le biscuit des rois. Le roi des biscuits.
Thank you.
marqué l'été 2020 de son empreinte. Say So, c'était Doja Cat sur RTL.
RTL vous régale.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Et je vais vous dire, dans RTL vous régale, vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise et on va vous le prouver. Parce que cette balade en Haute-Saône dans laquelle on vous emmène depuis 10h15 ce matin, elle est faite de surprises. On va vous parler d'un biscuit. Je disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est le biscuit des rois, le roi des biscuits. On va vous emmener à Montbozon. Alors Montbozon, c'est une petite commune d'à peine 500 habitants qui abrite pourtant ce fameux dessert des rois. Bonjour Léa Dami.
Bonjour RTL.
Bienvenue.
Bonjour Léa.
C'est gentil de nous accorder quelques minutes. Vous êtes la gérante de la boutique des biscuits de Montbozon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un biscuit de Montbozon d'abord?
Alors le biscuit de Montbozon, c'est un petit biscuit cuillère, mais qui est devenu en fait dans notre région une vraie spécialité régionale. Voilà.
Alors, c'est une recette de tradition, évidemment, c'est une recette ancestrale, parce que l'histoire, elle remonte quand même à un paquet d'années. On est quand même à la cour du roi Louis XVI au départ de l'action.
Exactement. En fait, l'histoire débute à la Révolution, en 1789. Le pâtissier de Louis XVI et de Marie-Antoinette a pris la fuite, et il s'est retrouvé ainsi à Montbozon, dans les confins de la Haute-Saône.
Il est arrivé dans une famille chez les Lanterniers.
Exactement.
Et du coup, pour les remercier de leur accueil, il va leur confier une recette qui est jusque-là secrète.
Voilà, exact. Alors, ce n'est pas tant la recette qui est secrète, mais le procédé de fabrication. Il leur a donné le secret de ce dessert qu'appréciait particulièrement le couple royal. Ouais. Et depuis deux siècles, ce biscuit est fabriqué à Montbozon.
Voilà.
Et la recette n'a pas bougé du tout. Tout est pareil.
Très peu. Non, alors pas tout pareil, forcément. Les moyens ont changé quand même, oui, de production. Mais la recette reste très très simple. En fait, c'est un mélange de deux préparations. Ouais. Dans une préparation, on retrouvera juste de l'œuf, du sucre, de la farine et un petit peu de fleur d'oranger. De l'autre côté, des blancs montés en neige. Ouais. Ces deux préparations sont encore mélangées à la main parce que il faut une texture très particulière pour la pâte et il faut que le mélange se fasse lentement et avec délicatesse.
C'est pour ça qu'on dit que l'assemblage de ces deux parties sont collées à la main.
Voilà. Alors en plus de ça, donc le biscuit encore cru est saupoudré de sucre glace, une très très fine couche. On passe en cuisson quelques minutes. Et ensuite, on obtient deux petits biscuits qu'on assemble à la main, encore aujourd'hui.
Le biscuit des rois, je vous laisse la suite.
Le roi des biscuits.
Et ben voilà.
Le roi des desserts, mais le roi des biscuits également.
Absolument. Léa Dami, gérante de la boutique des biscuits de Montbozon. C'est où exactement Montbozon sur la carte de Haute-Saône?
Alors en Haute-Saône, c'est après Lio, après Loulan, c'est un petit peu perdu, mais en même temps, c'est un très très beau village avec beaucoup de charme. Et c'est vrai qu'on est très content de travailler là-bas.
Et ben en plus de faire de délicieux biscuits, vous êtes la patronne de l'office de tourisme.
Voilà.
C'est aussi simple que ça. Léa Dami, on vous embrasse, Léa. On vous souhaite un bon week-end avec RTL.
Ouais,
et merci de nous régaler partout en France. Qu'est-ce qu'on les aime, ces artisans comme vous.
Merci et bravo pour ce que vous faites.
À très bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir RTL.
Au revoir.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite. Jusqu'à 11h30,
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Quand je pense qu'on aura appris dans cette émission comment on fait entrer une poire dans une bouteille d'eau de vie, ce n'est pas la seule information à retenir. Je vous rappelle tout ce qu'il faut retenir dans un instant, juste après Axel Red. Non, c'est vrai, il y a de la sensualité dans cette histoire de poire.
Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentir, des yeux ou amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment vive pour t'abonner, ta sensualité. j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Que stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour de ta belle
sensualité. Axel Red sur RTL.
RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Quel bonheur que de vous avoir emmené en Haute-Saône aujourd'hui. Que retiendrez-vous de cette émission si ce n'est que les moines du Moyen-Âge ont creusé des étangs dans la région pour avoir du poisson les jours maigres? Ça, c'est de l'info.
Absolument.
Retenons qu'on fait entrer une poire dans une bouteille d'eau de vie. En fixant la bouteille à l'arbre.
Ça va lui faire la nez.
Ce sont les arbres à bouteille. Stupeur et tremblement. Les griottines, ces petites cerises qu'on met sur les forêts noires, proviennent des griottiers. C'est griottiers des Balkans en Serbie. Bon, les amis, c'était un réel bonheur. Merci de nous avoir suivis. On vous emmène la semaine prochaine, samedi prochain, dès 10h, du côté de Bordeaux.